C'est Ludique, votre émission sur les jeux de société.
Alors je vous le dis tout de suite, malgré le nom, on ne va pas parler de cuisine aujourd'hui. Voici Fish and Chips, le premier jeu de Christophe Coate, avec des illustrations signées Pierrot, le tout édité par Studio H. Alors Fish and Chips est un jeu de lancer de palais qui se joue en intérieur où il y a deux équipes, la team des Goéland Gangsters et la team des Pelican Punk. On installe l'aire de jeu sur la table qui est divisée en trois zones, la plage, le rivage et la mer. Sur chaque partie, on va poser une proie, une grande tuile ronde représentant un crabe, un poisson et une pieuvre. Au niveau matériel, c'est vraiment top avec des tapis en néoprène et des jetons de casino pour représenter les palais. Alors c'est sûr, l'adresse est primordiale dans ce jeu. Un jeu familial qui peut d'ailleurs très bien se jouer à l'apéro avec les amis. Dans ce cas, il est préférable de jouer avant le premier verre. Alors Fish and Chips, c'est un jeu de palais breton. Alors petit rappel quand même pour les auditeurs non bretons qui nous écoutent, et il y en a plein, les règles du palais breton, déjà ça se joue en extérieur. Ne tentez pas de le faire en intérieur, votre carrelage pourrait le regretter. Quand on joue au palais breton, on lance des palais en fonte sur une plaque en bois dans le but de les placer le plus près possible du petit palais que l'on pourrait comparer au cochonnet dans une partie de pétanque. Mais Fish and Chips, ce n'est pas un simple jeu de palais breton. Non, ce qui compte, c'est la majorité. Ici, vous n'allez pas essayer de vous placer au plus près d'un autre petit palais. Vous allez lancer des jetons de poker représentant soit un goéland, soit un pélican. Tout dépend à quel gang vous appartenez. Et chaque palais a un numéro entre 1 et 3 qui correspond au point. Le but du jeu sera de lancer votre palais, je dirais même plus, de faire atterrir votre oiseau sur l'une des zones, la plage, le rivage ou la mer. L'équipe qui a le plus de points dans une zone remporte un point, autant dire qu'à chaque manche, il y a 3 points en jeu. Et même un peu plus, car si l'un de vos oiseaux arrive à atterrir sur une proie, le crabe, la pieuvre ou le poisson, c'est un point de plus. Ça se joue en 2 manches gagnantes, mais forcément, il y a quelques petites subtilités. Un jeton recouvert par un autre jeton, même partiellement. Et ça va de soi, mais un jeton qui touche une zone et qui sort du jeu, lui non plus, ne fera pas marquer de points à son équipe. Alors vous êtes plutôt la team des goélands ou des pélicans? On en parle tout de suite avec Christophe Coate. Bonjour Christophe et bienvenue sur Millennium, salut.
Bonjour.
Alors on va parler d'ici quelques instants de ton jeu Fish and Chips, ton premier jeu d'ailleurs.
Alors, premier jeu édité,
oui, premier jeu édité.
Premier jeu de société créée, non.
Non, voilà, on en parle tout de suite, juste après, Parcells.
C'est Ludique, l'invité de la semaine.
L'invité de la semaine, plutôt l'invité du jour, mais j'ai deux invités aujourd'hui, puisque j'ai aussi Yann de chez Bombits. Bonjour Yann.
Bonjour tout le monde.
Alors, on a beaucoup de chance aujourd'hui, Christophe Coate, l'auteur de Fish and Chips. Alors Christophe, avant de revenir sur le jeu, déjà je vais peut-être te laisser te présenter car je crois que tu n'as pas qu'un seul métier.
Alors si on commence à parler des métiers, bon maintenant en fait si tout s'est plus ou moins rejoint en un seul CDI, mais oui j'ai plusieurs activités à mes cordes. La première c'est que je m'occupe d'une bibliothèque communale.
Ouais.
Qui est jumelée à un cyberespace.
D'accord.
Là c'est des cours d'informatique, etc. Je viens de monter une ludothèque, ça y est enfin, depuis le temps. Je donne des cours d'art plastique, donc dessin, peinture, sculpture, pour les enfants, les ados, les adultes. Et enfin, je suis auto-entrepreneur aussi en informatique, donc là, c'est des réparations, des ventes d'ordi, etc.
Et auteur de jeux.
Et auteur de jeux aussi. Voilà, c'est le métier passion à côté, effectivement. En termes de revenus, c'est pas ça, je cherche pas à en vivre du tout. Mais
c'est
oui.
Compliqué d'être auteur de jeux ?
Compliqué, oui et non.
À plein temps, c'est pas possible.
Bah, si, c'est
possible.
Il y en
a quelques-uns.
On sait qu'il y en a qui en vivent bien, mais il y en a peu. Il y a quelques années, on avait fait un petit test au sein de la société des auteurs de jeux, une petite recherche de ce côté-là. On estimait qu'il y avait 12-15 auteurs à vivre vraiment pleinement et bien du jeu de société en France. Alors ouais. Peut-être que maintenant ça a évolué entre-temps, parce que ça date d'il y a 2-3 ans, je pense.
D'accord.
Ouais.
T'as commencé à quel âge à jouer ?
Oula, ça a dû commencer avec les dominos avec ma grand-mère, donc je devais bien avoir 8-9 ans.
D'accord. Et du coup, comment on devient auteur de jeu alors ? C'est quand tu as commencé à jouer, tu t'es dit, tiens, il y a des choses qui manquent, je pourrais faire ça.
Moi, je pense qu'il y a plein de façons de devenir auteur de jeu. Là, moi, en l'occurrence, c'était. J'avais envie de jouer à certains jeux qui n'existaient pas.
Ouais.
Donc, voilà, pourquoi pas les créer et ainsi de suite. Après, c'est vrai que j'ai fait les Beaux-Arts en termes d'études, donc le côté création me donnait envie de toute manière.
Alors, Fish and Chips, c'est un jeu de lancer de palais breton qui se joue en intérieur. Comment elle est venue, cette idée ?
Eh bien, avec les copains, on a fait des nuits, des années d'été de Palais Breton dans le hangar. Alors, j'ai la chance d'avoir un grand hangar. Donc c'est parfait, même s'il pleut, on peut jouer tout au bout de la nuit, avec évidemment ce qu'il faut en bière ou en rhum, etc.
Oui, oui, c'était, on rappelle que quand même l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
Oui, hein, certes. Mais bon, c'était très très sympa. Et oui, j'avais à cette époque-là, en fait, je m'étais dit, tiens, je vais essayer de me faire une spécificité en tant qu'auteur de jeu. Je vais me spécifier dans les jeux d'adresse et de tactique.
D'accord.
Donc, je sortais d'un jeu de Pigenet sur lequel j'avais travaillé pendant 2 ans, mais qui, hélas, n'avait pas trouvé éditeur. Alors, ça a changé entre-temps, c'est la bonne nouvelle. Mais Fish and Chips est venu un peu à la suite de ces soirées Palais Breton et de frustration de ne pas avoir réussi à faire éditer mon premier jeu d'adresse tactique. J'ai persisté, mais en essayant de faire un truc plus familial.
D'accord. Alors, on est sur un jeu hein, d'ailleurs qui a quelques années, qui a été testé dans de nombreux festivals, mais qui arrive seulement maintenant. Tu as signé ton contrat en 2017. C'est long de faire éditer un jeu ?
Ça prend entre 6 mois et 7 ans à ma connaissance. Donc tu vois, je suis pile au milieu finalement, donc moi ça me paraît très très long. Je suis plutôt sur la moitié longue de l'édition.
Ouais.
Mais au final, bon, ça s'est fait, c'est déjà ça, un print challenge réussi. Oui, il faut quand même être patient d'une manière générale, surtout en ce moment je pense.
Ouais. On a Yann hein, de chez Bombits, qui est... c'est long hein, d'éditer un jeu Yann ?
Oui, de plus en plus long, de par les coûts et le fonctionnement et les problématiques de transport notamment, ça rajoute au temps de gestation du jeu en lui-même.
Alors, il y a plusieurs prototypes de Fish and Chips. Faire un jeu de Palais Breton en intérieur, il fallait trouver des solutions matérielles, je suppose. Comme j'ai dit tout à l'heure, si on fait du Palais Breton en intérieur, on risque de péter le carrelage.
Voilà, c'est ça. Donc, c'était des petits challenges qui ont été solutionnés très très vite. J'adorais les tapis en néoprène. Je me disais qu'il y avait forcément moyen de faire des choses sympas en jeu de société avec ce matériel.
Ouais.
Alors depuis, c'est vrai que c'est beaucoup plus commun. Il y a beaucoup plus de sociétés qui en proposent, etc. Mais bon, ouais, pour Fish and Chips, en l'occurrence, j'avais 3 problématiques. La première, c'était le bruit.
Ouais.
Donc ça, le tapis en néoprène fait que ça absorbe le bruit des palets qui tombent. Il me fallait quelque chose à lancer qui soit solide et incassable. Le carton, c'est trop léger. On ne soupèse pas ce qu'on lance. Ça va voler, ça va pas marcher. Et par contre, je jouais un petit peu au poker, comme aussi à l'époque. Je me disais, tiens, ça c'est parfait, ça ressemble un peu au palais mini. Et c'est vrai que c'est réalisé dans un plastique complètement indestructible.
Ouais.
Moi, j'ai jamais vu un pion de palais, enfin un pion de poker, ça y est, qui est abîmé. Et la troisième, c'était d'éviter d'avoir les palais qui aillent rouler sous le vieux meuble en bois de mamie.
D'accord.
Le truc que tu vas jamais le récupérer.
Ouais.
Donc j'ai prévu des sortes de petites barrières qui sont thématisées avec du ciel finalement, qui empêchent, bon, allez, 95% des palais pour les débutants, éviter que ça roule un peu partout. Quoi.
Qui a eu l'idée de découper le tapis en 3 parties ?
Eh bien, ce n'est pas moi. Je dois te décevoir. Non, moi j'étais resté sur un tapis complet. Et ça a été une super idée de Studio H, parce que du coup, j'avais un packaging format soit tube, soit carton long, je sais pas comment je pourrais décrire ça. Et cette idée de découper les néoprènes en 3, c'est génial, ça tient dans une boîte format Carcassonne. Alors du coup, quand on ouvre la boîte, elle est complètement remplie, les trois tapis remplissent bien l'espace, et les petites barrières dont je parlais tout à l'heure servent d'intercalaire pour séparer les 3 tapis dans la boîte.
Au niveau des illustrations, donc c'est Pierrot qui a choisi l'illustrateur. C'est toi qui t'as dit je voudrais bien travailler avec lui, ou comment ça s'est fait, ou c'est Studio H ?
Alors, c'est Studio H qui a fait son choix et j'approuve complètement. Il a un style BD et assez fun. Je pense qu'il a bien saisi ce qu'il faut faire ressortir du jeu.
Alors je crois que le nom du jeu aussi a changé. Ça s'appelait pas Fish and Chips.
Et oui, bah du coup j'en profitais pour faire une petite dédicace à Patrick Nicolas. J'avais pas d'idée de nom, de titre pour ce jeu, et à un festival, un collègue, on a fait un petit brainstorming autour, puis là il dit « Ah, je l'ai !» C'est Prise de Bec. Révélation.
Bah oui.
C'était juste parfait. Mais bon, le nom n'a pas été conservé pour des questions de...
Pour exporter le jeu ?
Voilà, c'est ça. Il est aussi distribué aux US notamment, donc bon, je comprends.
Alors que Bombit, je crois, change les noms hein, pour l'étranger.
Ça dépend. Soit on essaie de trouver des noms qui peuvent coller de manière générale, comme on a eu Imaginarium, qui est un nom fabriqué de toutes pièces et qui peut coller, soit parfois on change effectivement, comme Lueur est devenu Glow à l'étranger.
Ouais. Alors, tu as fait beaucoup de concours de prototypes, Christophe. Est-ce qu'on peut dire que, d'ailleurs, même tu as gagné pas mal de prix ? Est-ce qu'il y en a un qui t'a fait plus plaisir que d'autres ?
Waouh, t'es dur avec moi. Non, je ne vais pas en citer que un. Bon, le premier, parce que ça envoyait des paillettes, c'était la sélection au Protolab de Cannes.
Ouais.
Et pourquoi des paillettes ? Parce que c'est tout le premier Protolab qui ait jamais existé. Donc, c'était un nouveau concept, c'était super intéressant. Et du coup, plein de choses à découvrir, speed dating, mon premier Cannes aussi pour l'occasion. Donc oui, c'était la totale. Après, j'ai deux festivals un petit peu de cœur et du coup régionaux. L'Armor Plage, le festival L'Armor Pion du coup, où j'ai gagné le concours là-bas. C'est un festival que j'aime bien, j'y vais quasiment tous les ans depuis 5-6 ans maintenant. Et puis le troisième, ça va être intéressant pour Yann, parce qu'il était dans l'orga, ou même sans doute l'orga principal de ce festival à l'époque. Donc c'était Finistère de jeu qui a fait un parrainage d'auteur.
D'accord.
Concept super intéressant, où du coup tu étais sélectionné avec ton jeu, mais parrainé avec un auteur déjà reconnu. Alors je suis tombé avec Jean-Louis Roubira. Dixit, hein, tout le monde le connaît maintenant, je pense. Et du coup, on a gardé super bon contact depuis.
Ouais.
Très bon souvenir.
Est-ce que c'est compliqué à sortir du lot avec toutes ces sorties ?
Oui. Il faut être honnête, oui. En plus, là, la période fait qu'on n'a pas vraiment de festival pour appuyer le jeu. Et moi, mon jeu aura vraiment besoin de ça.
Et oui.
C'est un jeu d'ambiance, c'est un jeu où on se retrouve entre potes, entre copains, peut-être à l'apéro, effectivement. Et voilà, on s'éclate avec. Mais là, ouais, bon, on verra bien.
Alors au niveau des festivals, y en a pas eu beaucoup, effectivement. Est-ce que tu as quand même un souvenir sur ce jeu avec un festival comme ça ?
Alors souvenir qui va être plutôt douloureux pour moi, c'est à Paris Ludique, au concours encore une fois. Les organisateurs avaient été malins, ils m'avaient mis en bout de Barnum, parce que j'ai besoin un petit peu de recul,
forcément.
Pour lancer les palets à un petit mètre, c'est pas grand-chose, mais quand les tables sont toutes serrées comme ça entre hauteur, normalement, il n'y a pas cette place. Et il faisait super beau. Et en bon breton que je suis, j'ai cramé. Donc j'étais, dès le premier jour, rouge écarlate. Et juste en face, il y avait le stand de Repos Prod, donc j'ai été leur prendre un sombrero.
Ah oui.
Ils se sont bien moqués, à juste titre, mais ce sombrero m'a sauvé la vie pour le dimanche.
Alors le Covid n'a pas aidé les festivals, mais n'a pas aidé non plus les sorties, hein, puisqu'il y a une petite quantité de ton jeu qui est arrivé, je crois, en septembre, puis il a été remis en avant là par Studio H avec de plus grosses quantités qui arrivent dans les boutiques. Est-ce que là, tu vas pouvoir commencer ta tournée des boutiques ?
Ça a déjà commencé, en fait. J'ai fait deux séances dédicaces, une à Croque-Jeu Brest, une à une nouvelle boutique de Landerneau, le Meeple du Rohan. Et puis j'ai d'autres boutiques à contacter, là, effectivement, selon le temps libre et leur dispo, pour faire d'autres présentations ou dédicaces.
À qui s'adresse ton jeu ?
Alors, c'est un jeu tout public, donc j'ai envie de dire à tout le monde.
Ouais.
Après, ça se pose quand même surtout, je pense, à l'apéritif ou en famille avec les enfants.
D'accord. On pourrait y jouer à Cannes, je suppose ?
Tout à fait. Y a un espace prévu sur le stand de Studio H. Normalement, une séance de dédicace aussi.
Tu y seras donc ?
J'y serai. Et Pierrot aussi, normalement.
D'accord. Tu vas présenter d'autres jeux là-bas ou c'est juste y va pour Fish and Chips ?
Alors, présenter dans quel sens ? Présenter des prototypes ?
Des prototypes, ou des choses qui arrivent. Est-ce que tu as des nouveautés là qui arrivent chez d'autres éditeurs ?
Oui, j'ai Star Pitch dont je parlais tout à l'heure, un jeu de pigeonnette avec un tapis néoprène aussi,
ouais.
Qui arrivera prochainement chez Offline. Alors le développement n'a pas encore 100% commencé, mais on en parle depuis déjà un ou deux ans maintenant.
Offline qui avait fait un premier jeu, je crois, avec un petit tissu qu'on pliait, la Magic Fold.
Oui, c'est ça, de Bruno Catala.
Ouais.
Sinon, il y a des pistes pour Sauterelle, c'est pas encore finalisé. Et là, en l'état, au niveau jeu, entre guillemets, édité ou presque de lettres, rien d'autre. Plusieurs prototypes à mes cornes qui n'ont pas trouvé preneur, donc j'y retravaillerai peut-être plus tard.
Tu organises aussi un festival. Comment t'es venue cette idée ? Est-ce que c'est long à organiser ? Ça a été compliqué aussi ces dernières années ?
Ces dernières années, ça m'a pris zéro temps parce que j'ai pas lancé d'orga. Ça m'a fait découvrir que j'avais plein de temps libre en fait. Compliqué à organiser, oui, la première édition, ça fait un peu peur parce que y a, Il y a forcément des risques financiers. Est-ce qu'on va avoir suffisamment de monde, suffisamment d'exposants? Enfin, ouais. C'est plein de stress, mais c'est vraiment une chouette expérience. Moi, j'ai appris plein de choses en faisant ça. Alors maintenant, les prochaines éditions, on en a une de planifiée le 5-6 novembre pour 3D.
D'accord.
Dans une nouvelle salle. On était dans une grande salle de 1700 m², mais moi, j'ai plus envie de faire ça. Ça me prend trop de temps. J'ai envie d'un truc plus cosy. Privilégier la qualité à la quantité, en fait.
D'accord.
C'est le but de la prochaine édition de 3D. Donc, on fait un concours d'auteur,
ouais.
Une de nos spécificités. Et avec zéro catégorie, il n'y a pas de... On peut mélanger des jeux experts avec des party games. Normalement, ils ont à peu près tous leur chance de gagner.
D'accord, ah ouais.
Voilà. Mais là, cette année, on va essayer de diversifier nos concours. On va utiliser notre système pour deux ou trois autres festivals.
Ouais.
Et je pense que je vais essayer de faire un concours de party game dédié à 3D.
D'accord.
Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup dans les concours proto. Donc voilà, envie de spécialiser, de trouver du sens, quelque chose qui n'est pas encore fait véritablement, on verra bien.
Tu t'occupes aussi du site du Meeple Breton. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots pour finir ?
Ah bah alors ça, en fait, c'est venu de mes départs d'auteur de jeux. Je cherchais des endroits où présenter mes jeux.
Ouais.
Donc, en l'occurrence, des boutiques spécialisées ou des festivals. Donc, j'ai commencé à tout lister dans un fichier Excel. Et puis, d'autres copains étaient intéressés. Bon, j'ai dit, bon, allez, tiens, je vais mettre ça en ligne finalement. J'ai commencé à lister tout ça sur une Google Map. Commencé à faire un agenda de ces fêtes du jeu, ça a pris un tout petit peu d'ampleur, et là maintenant c'est un site où j'ai 550 structures référencées, donc je parle de ludothèque, de boutique, de bar à jeux, d'escape game, d'associations, c'est fou tout ce qu'on a en Bretagne. Et au niveau de l'agenda, bah, c'est un peu au stade mort en ce moment, mais c'était en 2019, j'avais référencé 116 fêtes du jeu par an dans l'année, donc ça fait 2,3 fêtes du jeu par week-end.
C'est
incroyable.
C'est énorme. C'est énorme. Ben, merci beaucoup, Christophe. Alors, je vous dis tout de suite, aux alentours, je ne sais pas, 10h, 10h30, on va faire un live sur Fish and Chips. Tu es prêt, Christophe ?
Ah, moi, je suis prêt. Est-ce que Yann l'est ?
Que je sois prêt ou non, je vais perdre. De toute façon.
Tu t'es même pas entraîné, je suis déçu.
Contre rien, contre toi, je peux rien.
Ah oui, ben oui, t'es le spécialiste, finalement.
Ah bah là, oui, il va devoir choisir entre le mode hardcore qui est ma main droite ou le mode normal qui est la main gauche.
Est-ce qu'il peut choisir que tu joues les yeux fermés ?
Il peut.
Ah oui ! Eh ben...
J'ai peut-être ma chance.
Je relève le défi.
Eh ben ça marche, ça se passera tout à l'heure sur Facebook. D'ici quelques instants, on va revenir, on va parler de Petit Peuple. On aura donc Yann qui est dans les studios à Perros Guirec, mais on aura aussi Nathalie et Rémi Saunier, les auteurs du jeu, par téléphone. A tout de suite, ça se passe juste après les frangines.